Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons nous placer devant toi, qui est infiniment plus élevé que nous ne le sommes. Toi qui nous as manifesté ton merveilleux salut en Jésus-Christ, entièrement gratuit, nous n'avons rien à faire. Et nous venons à toi, Seigneur, pour boire à l'eau de ce salut qui nous a été acquis si chèrement, comme nous allons le voir encore ce matin. Accompagne-nous, Seigneur, pendant cette méditation, ouvre nos cœurs. Seigneur, enrichis-nous de ta parole, de ta grâce. Aide-nous ce matin encore à aller plus loin dans la foi et dans la consécration. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, donc, nous allons, les dernières fois, nous avons donc médité sur l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Et aujourd'hui, nous allons aborder le jugement de Jésus, disons plutôt le procès de Jésus. Et je vais lire le texte. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, des versets 57 à 66. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent, celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Il a blasphémé. « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Oui, le titre donc de cette méditation, c'est le procès de Jésus. Mais en fait, il y a eu 2 procès de Jésus. L'un de nature religieuse, donc sous la responsabilité de Caïphe et du Sanhédrin, et le second, un procès civil qui a eu lieu sous l'autorité romaine en la personne du procurateur de Judée, Ponce Pilate. Pourquoi est-ce qu'il a fallu ces 2 procès? Parce que le Sanhédrin n'avait pas le droit de mettre quelqu'un à mort, sauf un cas très exceptionnel, c'est si quelqu'un s'aventurait dans le sein des saints. Là, ils avaient le droit, les Romains le leur permettaient. Ça n'a pas été le cas ici. Donc, c'est parce que le Sanhédrin n'avait pas le droit de mettre qui que ce soit à mort Caïphe, après avoir déclaré « il mérite la mort », donc, le livre à Pilate. Mais avant d'arriver à Pilate, Jésus est passé, si on peut dire ça comme ça, de main en main. Il a comparu devant Anne, d'abord, selon l'évangile de Jean. Il a comparu ensuite devant Caïphe. Il a comparu devant Hérode. puis de nouveau devant Caïphe et enfin devant Pilate. On peut dire que Jésus a été soumis à un véritable parcours du combattant sur le plan judiciaire. Et même, on peut dire, un parcours du combattant de l'humiliation. Il a subi les mensonges, les faux témoignages, les accusations iniques, les gifles, les coups de poing et les crachats avant d'être envoyé à la croix. Une chose remarquable, tout comme au cours de son arrestation, c'est qu'à aucun moment il n'a perdu le contrôle, ni sa sérénité, ni rien de sa dignité ou de sa majesté non plus. Il n'a rien perdu de tout cela. Il a été giflé, on lui a donné des coups de poing, on lui a craché la figure, et la conclusion, c'est que c'est plutôt ceux qui ont fait ces choses qui ont perdu leur dignité, pas Jésus. À chaque instant, il est resté, on peut dire, à 1000 lieues au-dessus de toutes les bassesses humaines qu'il a pu subir. Et on peut dire aussi que la providence de Dieu a converti toutes ces abominations qu'il a subies de la part des hommes à une autre fin. La face de Christ a été polluée par les crachats, les gifles et les coups de poing, afin que soit restaurée en nous l'image de Dieu qui avait été défigurée et même presque entièrement effacée par le péché. Nous allons aborder maintenant le texte. Nous aurons 4 points. Premier point, l'agneau de Dieu est amené devant le souverain sacrificateur. Verset 57. Deuxième point, il s'élève contre Jésus de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. C'est la prophétie du psaume 27. 12, c'est le verset 59-60. Troisième point, Jésus, brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est la prophétie d'Ésaïe 53-7, nos versets 62-63. Et enfin, quatrième point, celui qui est en train de subir un jugement inique de la part des hommes reviendra juger les vivants et les morts. C'est la prophétie du psaume 110. Et ce sera les versets 63 à 68 de notre texte. Premier point, l'agneau de Dieu est amené devant le souverain sacrificateur. C'est le verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Donc les autorités religieuses s'étaient entendues avec Judas pour que Judas leur livre Jésus. C'était les versets 14 à 16. Mais en faisant cela, les religieux pensaient avoir accompli leur mauvais dessein, mais il y a une chose qui leur échappait, c'est qu'en étant amené devant le souverain sacrificateur, Jésus était une fois de plus en train d'accomplir la loi de l'Ancien Testament, le Lévitique. En effet, le livre du Lévitique stipule que l'agneau pascal doit être remis au souverain sacrificateur. Petit détail intéressant, d'après ce qu'on sait de la topographie de Jérusalem à l'époque, pour aller du jardin de Gethsémané jusque dans le palais, où se trouvait Caïphe, il fallait passer par la porte des brebis. Alors, maintenant, qui étaient les anciens, les scribes et les souverains sacrificateurs dont il est question au verset 57 ? Dans Actes 4, 11, l'apôtre Pierre dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez » et qui est devenue la principale de l'angle. De qui est-ce que Pierre parle quand il dit « vous qui bâtissez » ? Ceux qui bâtissent l'église de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était les responsables religieux et notamment les prêtres, donc de la famille des descendants de Lévi. Il s'agissait donc des représentants sur terre de la loi de Dieu. On était dans une théocratie. Or, que font ici les représentants de la loi de Dieu en condamnant Jésus? Ils font deux choses d'une gravité irréversible. Comme le dit Pierre, et comme le disait la prophétie, ils rejettent la pierre d'angle, Christ, qui est le fondement et la tête de l'Église de Dieu. Ils réalisent donc, sans le savoir, une autre prophétie de l'Ancien Testament, psaume 118, 22, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ça, c'est le premièrement. Et deuxièmement, en faisant cela, eux, représentants de la loi, ils livrent à la mort celui qui a accompli toute la loi de Dieu. Celui aussi qui était le but et la fin de la loi. Ils n'ont pas compris que la lettre de la loi et le temple de Jérusalem n'étaient que l'ombre des choses à venir. Lorsque Jésus dit « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai », il affirme que le vrai temple, maintenant, c'est lui. Paul dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2,9. Une application. Cette attitude des religieux juifs peut nous concerner. Pourquoi? Parce qu'il est question de cultiver, là, volontairement, une fausse idée de qui est Christ, afin de mieux pouvoir le rejeter. Et en fait, si vous remarquez bien, c'est ce que font la plupart des gens qui rejettent l'Évangile. La meilleure manière de se débarrasser de Christ, c'est d'en faire une caricature. Mais si quelqu'un... réalité, c'est que si quelqu'un cherche à voir en Christ autre chose que ce qu'il est vraiment, il court un très grand risque. Et cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Si, comme dit Caïphe, je ne vois pas que Christ est le but, comme c'est l'attitude de Caïphe, si je ne vois pas que Christ est le but et la fin de la loi, et qu'il a accompli la loi pour moi à ma place, je risque de perdre mon temps et ma vie à chercher le salut, chercher mon propre salut dans la loi et non en Christ qui a accompli la loi. Je risque même de tomber dans le désespoir quand je réaliserai qu'il m'est impossible d'obéir à cette loi parce qu'elle est bien trop parfaite pour moi. Voilà pourquoi il faut passer par Christ pour être sauvé. C'est parce que lui seul, en tant que fils de Dieu, a réussi à accomplir toute la loi, et cela d'une manière parfaite. Deuxième point, il s'élève contre Jésus de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. C'est une citation de la prophétie du psaume 27, 12. Alors, verset 59-60, Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. C'est assez incroyable, mais les responsables religieux ne cherchent même pas à cacher qu'ils cherchent de faux témoins. C'est donc délibérément qu'ils sont en train d'organiser un procès entièrement truqué et un procès illégal à tous les points de vue. Nous savons cela, entre autres, par la Mishnah qui donne tous les détails des procédures de droit juif de l'époque. On peut citer quand même quelques points sur lesquels, à propos desquels ce procès était illégal. Premièrement, il était interdit au Sanhédrin de se réunir pendant les fêtes juives. Deuxièmement, il lui était interdit de se réunir pendant la nuit. Troisièmement, il était interdit, on le comprend, de soudoyer des faux témoins. Quatrièmement, il était interdit de produire des faux témoins. Cinquièmement, les verdicts étaient nuls et non avenus s'ils étaient passés ailleurs que dans la salle de la pierre dressée qui se trouvait près du temple. Sixièmement, ici, le Sanhédrin joue en même temps le rôle de jury et de plaignant, ce qui était tout à fait illégal. Septièmement, le premier devoir du Sanhédrin était de produire des témoins pour la défense. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est même le contraire qu'il a fait, puisqu'ils ont fait appel à plusieurs faux témoins, et ces témoins, dit le texte, n'avaient rien de crédible à présenter qui puisse faire condamner Jésus. C'est au verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, nous dit le texte. Et le texte parallèle de Marc nous dit quelque chose de très intéressant. Il précise que la plupart de ces faux témoins se contredisaient entre eux. Finalement, il s'en est présenté deux qui, à première vue, semblaient crédibles. C'est les versets 60-61. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Que penser de ce témoignage? En fait, Jésus avait dit, c'est dans Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » C'est donc tout à fait différent. Tout à fait différent, je relis les deux. Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Mais Jésus avait dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Alors ici, il faut qu'on fasse un peu d'exégèse légère, mais de manière à mieux comprendre. Pourquoi est-ce que c'est tout à fait différent ces deux choses? D'abord, premièrement, les Juifs prétendent qu'il a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu » en parlant du temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils attribuaient à Jésus une intention criminelle que Jésus n'a jamais eue. C'était l'intention de détruire le temple de Jérusalem. Et à leurs yeux, détruire le temple de Jérusalem, c'était le comble du sacrilège et c'était donc passible de mort. Pourquoi? Parce que pour eux, le temple de Jérusalem était devenu un objet d'idolâtrie. Tout ce qui est spirituel, pour les chrétiens, peut devenir objet d'idolâtrie. Même la Bible, même la prière, suivant la manière dont on l'aborde. Alors, pourquoi est-ce que le temple était devenu un objet de superstition et d'idolâtrie? Le prophète Jérémie l'avait déjà signalé 6 siècles avant. Il disait, c'est dans Jérémie 7,4, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Le temple était donc déjà l'objet d'une superstition et d'une idolâtrie. Deuxièmement, en réalité, Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Le texte grec nous donne la preuve que Jésus parlait non pas du temple de Jérusalem, mais de son propre corps. Quand les témoins disent « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours », pour rebâtir, ils utilisent le mot grec « oikodomeo », qui veut dire construire, mais avec des briques ou avec des pierres. Alors que Jésus, quand Jésus dit « et en 3 jours je le relèverai », il utilise le mot grec « egeiro » qui veut dire « relever » au sens de « ressusciter ». Ce qui est tout à fait différent. Il est donc évident qu'il ne parle pas du temple de Jérusalem, mais de son propre corps. Et donc, on voit aussi par là la perversité de ces faux témoignages qui prêtent à Jésus une intention criminelle passible de la mort. Voici ce qui est dit dans Actes 6, 13, 14, et qui est à peu près exactement le même faux témoignage qu'on trouve dans notre texte de ce matin. Ils produisirent de faux témoins, ça c'est le récit des Actes, hein, à propos de comment il s'appelle ? Étienne, voilà. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Il y a une étrange ressemblance entre les deux. Et on voit donc vraiment la perversité de ceux qui s'entêtent à refuser ce qu'était vraiment le Christ. Alors, quelle application, justement, est-ce qu'on peut tirer pour nous de cette histoire-là de faux témoignages, notamment en ce qui concerne le christianisme d'aujourd'hui? Il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, on constate qu'au XXIe siècle, le cœur de l'homme est toujours aussi tortueux qu'autrefois. Les hommes, aujourd'hui encore, se servent de toutes sortes de faux témoignages pour rejeter l'Évangile ou pour rejeter Jésus-Christ. Par exemple, je donne que 2 ou 3, par exemple, on invoque la science pour rejeter l'existence de Dieu. Mais c'est un faux témoin. Pourquoi ? Parce que les gens utilisent la science en la sortant, si on peut dire, de sa compétence pour essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Donc ils prennent la science vraiment comme un faux témoin, puisque la science... ou pour dire que la vie est surgie par hasard, est venue sur Terre par hasard. Donc, ils utilisent la science comme un faux témoin, alors qu'en l'utilisant de cette manière, ils la sortent de sa compétence propre, qui ne peut rien affirmer sur les choses spirituelles. Un autre faux témoignage, c'est invoquer par exemple le Coran, pour dire que Christ n'est pas mort sur la croix, puisque le Coran affirme, je crois, que c'est quelqu'un d'autre qui, au dernier moment, aurait pris la place de Jésus sur la croix. Alors, est-ce que ça n'est pas encore un faux témoignage, sachant que Mahomet a vécu 6 siècles après et qu'il n'a donc pas pu être témoin ni de la vie, ni de la mort, ni même de la résurrection de Jésus-Christ. Un dernier faux témoignage, on se sert de traductions frauduleuses de la Bible, par exemple, pour nier la divinité du Christ. Alors que la divinité du Christ est le fondement de notre salut. Et c'est ce que font certaines sectes, par exemple celle du docteur Wayne Weil avec The Way International, qui est connue aux États-Unis, mais qui est aussi, je crois, assez répandu en France, et qui a écrit un livre qui s'appelle, Christ is not God, Christ n'est pas Dieu. Vous avez aussi la Watchtower, les témoins de Jéhovah. Alors, ces gens-là nient la divinité de Christ. Mais ils savent en même temps qu'un homme, même parfait, ne pourrait pas suffire à sauver quelqu'un par son sacrifice. Alors comment est-ce qu'ils résolvent ce problème? Les témoins pour la secte de The Way International, je ne sais pas, mais les témoins de Jéhovah ont trouvé une manière de résoudre ce problème, mais de manière vraiment absurde, puisque leur dogme officiel, c'est que Christ n'est pas un homme parfait, puisqu'ils voyaient que ça ne marche pas. Christ, pour la théologie officielle des témoins de Jéhovah, c'est l'incarnation de l'archange Michel, tout simplement. Troisième point. Jésus, brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ici, c'est la prophétie d'Ésaïe 53:7. Et vous voyez qu'au cours de ce procès, comme on l'avait vu au cours de l'arrestation, Jésus est en train d'accomplir les prophéties systématiquement, comme si c'est lui qui dirigeait tout là-dedans. Aussi bien à l'arrestation, comme on l'avait vu en détail, que dans le procès. Verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Sur ce silence de Jésus, Origène dit quelque chose de très juste. Il dit « Le témoignage de sa vie entière et de ses œuvres parmi les Juifs valait bien mieux que des mots pour se défendre des fausses accusations. » C'est très juste et Caïphe le savait certainement, ça. Mais quand on réfléchit, le silence de Jésus ici va encore plus loin que ça. Lisons le verset 7 d'Ésaïe 53. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » On peut trouver surprenant que Jésus ne dise rien devant le mensonge et la fausseté, puisqu'il a passé les 3 ans de son ministère à dénoncer le mensonge et la fausseté. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Parce que justement son ministère de la parole était terminé et qu'il était entré dans son ministère sacrificiel. Son ministère de rédemption. Voilà pourquoi il ne répond pas aux fausses accusations contre lui. Et quand il parle, au verset 64, quand il répond à Caïphe, ça n'est pas pour se défendre ou se justifier. Car Christ n'est pas venu sur cette terre afin de répondre pour lui-même. Il est venu afin de répondre pour nous. S'il a gardé le silence devant les fausses accusations de tous ces pécheurs. Premièrement, c'est afin que nous puissions ouvrir la bouche devant Dieu pour le pardon de nos péchés, car Christ a effacé les vraies accusations qui pesaient contre nous. Et comme il est dit dans Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Deuxièmement, Christ est entré dans son ministère d'intercession. C'est pourquoi il ouvre maintenant lui-même la bouche en notre faveur et pour notre défense auprès du Père. Et dans Hébreux 7, 25, nous lisons « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Et dans Hébreux 9, 24, « Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Quatrième et dernier point. Christ reviendra juger les vivants et les morts. Versets 63 à 66. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Très théâtral, ça. Mais en fait, on dirait que ça ressemble à une mascarade, à une pièce de théâtre, ce jugement. Donc, il a des gestes théâtraux. Un geste, déchirer ses vêtements, ça représente le deuil et la tristesse. Mais lui, il doit ressentir une joie énorme. Caïphe. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent, il mérite la mort. L'obstination de Caïphe à ne pas croire nous rappelle un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, l'obstination de Judas à ne pas croire alors qu'il a assisté à tout le ministère de Christ, qu'il a vu ses miracles, qu'il a entendu son enseignement. Il fait donc... ce que le psaume 36.3 dit aux méchants, en s'obstinant à ne pas croire, à ne pas comprendre, littéralement, le psaume 36.3, on l'avait vu aussi la semaine dernière, dit littéralement, « Il refuse de comprendre afin de bien agir. » Et beaucoup de gens refusent de réfléchir ou de comprendre afin de faire le bien. Il s'agit donc d'un refus délibéré de recevoir une quelconque lumière venant de Christ. Judas a rejeté Christ en toute connaissance de cause, on l'avait vu, et Caïphe est en train de suivre le même chemin ici. Car Christ n'a pas été sans témoignage auprès de son peuple, et Caïphe savait très bien. Donc ici, Caïphe semble un peu arriver au bout de son rouleau, at the end of his rope, je crois qu'on dit en anglais, non? Et il voit que cette manipulation avec les faux témoins, ça n'a pas marché. Donc il va sortir le grand jeu, comme on dit en français. Et il force Jésus à parler en le plaçant sous la loi lévitique du serment. Et Jésus parle. Et il dit même quelque chose de plus que ce que Caïphe demande ou même voudrait entendre. D'abord, Jésus s'applique à lui-même la prophétie messianique de Daniel 7, 13 et celle du psaume 110, 1 qui déclare, 110, 1 du moins, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est-à-dire qu'à ceux qui sont en train de le juger de manière complètement inique, il affirme non seulement sa divinité, c'est-à-dire quand il dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur », on ne sait pas, c'est vraiment clair. Bon. Donc il affirme non seulement sa divinité, il affirme sa messianité, mais il affirme aussi sa position de juge ultime de tous les vivants. Ce qui nous amène à la conclusion. Nous qui sommes sur la terre pour si peu de temps, nous devons faire très attention de ne pas faire comme Caïphe et le Sanhédrin, nous obstiner à porter sur Jésus-Christ un jugement injuste, c'est-à-dire à juger Christ sans tenir compte de ce qu'il a à dire. Pourquoi est-ce que Jésus cite la prophétie messianique de Daniel ? Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » C'est pour nous mettre en garde, nous aussi, pour nous faire savoir qu'il va revenir juger les vivants et les morts, et la parole de Dieu est claire sur ce point. C'est pourquoi, et c'est le résumé de ce passage, nous devons être conscients d'une chose très importante à propos de Jésus-Christ et de notre attitude envers lui, c'est qu'il n'y a pour nous que deux options possibles. Ou bien nous le recevons pour sauveur, ou bien nous l'aurons pour juge. Prions. Oui, notre Père Céleste, tu nous as envoyé ton Fils comme sauveur et nous voulons vraiment le recevoir ce matin comme tel et ne pas porter sur lui de jugement inique et le recevoir tel qu'il se dit être dans ta parole. Et Seigneur, nous le recevons parce que nous sommes très conscients que nous avons besoin d'un sauveur dont la puissance soit totale au-dessus du péché et de Satan, car nous, avec nos propres forces, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons sans ta grâce même pas lutter contre le péché qui nous harcèle quelquefois. Seigneur, nous avons besoin de Christ, nous le reconnaissons ce matin, et si nous ne comprenons pas totalement tout ce qu'est Jésus-Christ notre Sauveur, nous te prions d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que au moins nous comprenions qu'il a fait à notre place ce que nous devrions faire si nous voulions nous sauver par nos propres forces, obéir à toute la loi, ne plus pécher, ne plus avoir de pensée de péché, de sentiment de péché. Et ça nous est impossible, c'est pourquoi nous reconnaissons notre besoin de lui. Parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et il a vaincu l'ennemi, Satan. Et c'est pourquoi nous voulons prendre refuge en Christ ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre et à faire cette démarche si nous ne l'avons pas encore faite. Agis dans nos cœurs, Seigneur, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.